RFI, grand reportage.
Solène Honorine.
L'homme qui rame doucement le long de la rivière Brune, c'est Sinder, un paysan d'Ayak. La vie simple dans les petites maisons sur pilotis de son village du centre de l'île de Bornéo en Indonésie paraît immuable. Mais ne vous fiez pas à ses apparences nonchalantes. Elle a été brutalement transformée ces dernières années.
Il y a 30 ans, il y avait de grandes forêts ici, mais maintenant tous les grands arbres ont disparu. Les grosses compagnies forestières les ont pris pour aller les vendre à l'étranger. Il ne nous reste que les petits arbres. Maintenant, on n'a plus rien. Les grandes entreprises nous ont volé nos forêts.
Il a fallu conduire 2 heures depuis la capitale provinciale pour arriver jusqu'au village. Mis à part quelques bosquets comme celui qui borde la rivière, il n'y a plus rien. Rien que des broussailles qui poussent péniblement jusqu'à l'horizon plat, dont la monotonie n'est percée que par moments par des petits champs de manioc ou des troncs d'arbres morts, blanchis par les incendies à répétition. Vous pouvez prendre votre voiture et conduire pendant 12 heures sans rien voir d'autre. Alors si vous vous rappelez qu'il y a 30 ans, la totalité de l'île de Bornéo était recouverte par la forêt, vous sentirez votre gorge se serrer. Nous sommes ici au cœur d'un projet grandiose, le projet Mega Rice. Dans les années 90, l'urbanisation rapide sur Java, l'île la plus peuplée de l'archipel, en avait grignoté bien des terres volcaniques très fertiles. Pour compenser cette perte, les bureaucrates de Jakarta, la capitale, décident de transformer les bien inutiles forêts de Bornéo en greniers à riz du pays. Plus d'un million d'hectares de jungle sont rasés. 1 million d'hectares, c'est l'équivalent de la surface d'un pays comme le Liban. Cela fait maintenant 10 ans que la terre a été tondue, se souvient Yarden, un agronome de l'université locale, mais on attend encore la récolte du premier boisseau de riz.
Ce qu'on pensait de ce projet, c'était très dangereux. C'était une idée folle. Le gouvernement a même dit à un moment, pourquoi ne pas importer des cendres volcaniques de Java pour fertiliser les tourbières? Bien sûr, ça n'a pas marché et on n'y a jamais cru. 1 million d'hectares pour le projet Mega Rice, 1 million de problèmes pour nous.
1 million Mega Rice project, 1 million problems for us.
Car les têtes pensantes du projet Mega Rice avaient oublié une chose. Les terres qu'ils avaient choisies sont en fait des tourbières, un type de sol qui est formé par la lente décomposition de matières organiques et composé à 80% d'eau. Et les tourbières tropicales sont bien trop acides pour des cultures comme celle du riz. Ici, seuls les arbres qui formaient la forêt naturelle peuvent prospérer. Pire encore, une fois que les tourbières sont asséchées pour faire place aux plantations, elles entrent dans un inexorable processus de décomposition qui transforme ces matières organiques en carbone, relâchées alors dans l'atmosphère, ce qui contribue au réchauffement climatique, au même titre que les gaz d'échappement des voitures de Paris ou de Tokyo. À cause de cela, a calculé l'organisation Wetlands International, à laquelle appartient Marcel Silvius, l'Indonésie est le 3e émetteur de carbone au monde, juste derrière les industries de la Chine et des États-Unis.
The total number of peatlands.
L'Indonésie compte environ 23 millions d'hectares de tourbières. Sur cette superficie, environ la moitié a été abîmée. Ces tourbières représentent 0,1% de la surface de la Terre, mais elles produisent 8% de la totalité des émissions de carbone dans le monde.
Les incendies à répétition empirent encore ce phénomène. Une fois drainées, les tourbières deviennent extrêmement sèches et peuvent brûler à petit feu pendant des mois. L'année dernière, les incendies de Bornéo ont dégagé tellement de fumée qu'à certains moments, on n'y voyait pas plus loin que 2 mètres devant soi. Pendant un mois et demi, la région a été coupée du reste du monde parce que l'aéroport était fermé par manque de visibilité. Du coup, on aperçoit partout dans la province des panneaux « interdiction de commencer un feu ». C'est la nouvelle politique du gouverneur de la province. Sur le terrain, cela veut dire une révolution dans le mode de vie des paysans qui forment la majorité des habitants de la région parce que eux pratiquent la culture sur brûlis depuis des siècles.
Dans ce village, on est fermier à 90%. Et nous, on n'est pas d'accord avec la décision du gouverneur. Si on la respecte, on ne peut pas travailler. Alors on est obligé d'utiliser le feu ici. Car si on ne le fait pas, ça nous prendrait des années pour préparer les champs à la culture.
Dix ans plus tard, la région continue à payer le prix de la folie du projet Mega Rice. Pourtant, estime Yarden, l'agronome de l'université locale, cet échec cinglant était tout à fait prévisible.
Je pense qu'ils le savaient, les experts le savaient. Il y avait 70 professeurs venus des quatre coins de l'Indonésie qui ont travaillé sur les études de faisabilité. Je vous le dis, ils ont été formés à être stupides. Les gens du coin savaient très bien que ce n'était pas une bonne terre pour faire des cultures. Évidemment, nos parents, nos grands-parents, ils n'ont jamais établi de ferme sur les tourbières. Ils savaient bien que ça ne donnerait rien. Alors pourquoi ce projet? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils voulaient prendre le bois, faire de l'argent.
L'Indonésie est entrée cette année dans le livre des records en tant que champion du monde de la déforestation. Ici, on coupe l'équivalent de 300 terrains de football de forêt par heure. Car dans ce pays qui compte la plus grande forêt tropicale au monde après le Brésil, le bois, c'est une richesse, quelle que soit la forme que prend son exploitation, explique Patrice Levang, chercheur à l'Institut de recherche sur les forêts, le CIFOR.
On a l'exploitation forestière, donc on va récupérer que les grumes les plus intéressantes sur une parcelle. Le problème, c'est que pour aller les chercher, il faut du matériel, du gros matériel, des bulldozers, il faut les abattre, ils tombent et ils font des tas de dégâts tout autour. Donc quand on a fini de sortir les 8 tiges par hectare, on aboutit souvent à 35% de la surface de dégradé. Ensuite, l'autre problème, c'est la conversion. Donc là, on va couper tout pour en faire des plantations de palmiers à huile ou alors de plantations forestières.
Comment ça ?
La technique, c'est très simple. On prend de la forêt naturelle qu'on commence à exploiter. Quand on a enlevé les gros arbres, on attend un peu, on y retourne pour prendre ce qui reste. Donc on coupe toutes les tiges de plus faible diamètre et qui vont, elles, partir dans des usines de pulpe et de pâte à papier. Ensuite, sur le terrain laissé vacant, on va faire une plantation forestière, c'est-à-dire une plantation d'eucalyptus ou d'acacia. Si en plus, pour faire ça, on peut arriver à soutirer des fonds à l'État pour le reboisement, on gagne au tirage et on gagne au grattage. Donc tous les projets de reboisement en Indonésie ont souvent commencé par de la déforestation.
Nous voici au sein du parc national de Tanjung Puting, à une douzaine d'heures d'une route chaotique du projet Mega Rice. Enfin, voici la jungle, voici l'image d'Épinal que l'on a de Bornéo. Mais quand même, à y regarder de plus près, on constate qu'il n'y a pas un seul de ces arbres majestueux de 2 mètres de diamètre, ce genre de roi de la forêt qu'on imagine dans la jungle. La raison, elle est bien simple. Comme dans 37 des 41 parcs nationaux d'archipel, officiellement des zones protégées, les scies illégales y ont déjà tourné allègrement. À la fin des années 90, des centaines de grumes passaient chaque jour sur la rivière, direction le port de Kumai, puis les marchés internationaux. Dans le village de Tanjung Harapan, juste en face du parc, la moitié des hommes, comme Ahmad, travaillaient alors pour le compte des compagnies forestières, toutes illégales.
À cette époque, il n'y avait pas d'autre boulot ici, donc on était recrutés sur place par le maître de chantier. C'était un travail très dur. Vous devez marcher des heures dans la jungle pour repérer les beaux arbres. Après, il faut les couper, les ramener jusqu'à la rivière. En plus, il y a beaucoup d'accidents. Parfois, les arbres peuvent vous tomber sur les jambes, les bras, parfois même la tête, et c'est très, très dangereux. Moi, je ne connaissais que le contremaître du chantier. Je ne sais pas qui était le vrai gros patron. Évidemment, c'est celui-là qui a vraiment fait de l'argent grâce à notre travail. Nous, on était employés à la journée et on gagnait juste de quoi nourrir notre famille.
Imaginez un pays que l'on traverse en 5 heures d'avion, éclaté sur 17 000 îles. Difficile d'en contrôler tous les recoins. Et lorsque la jungle s'étend sur des centaines de kilomètres, bien loin de tout poste de police, ce n'est pas trop difficile d'aller se servir incognito. L'ONU estime que les 3/4 du bois produit dans le pays pour faire des meubles ou de la pâte à papier a été coupé illégalement. Le problème, le manque de moyens d'abord. Il n'y a pas assez de gardes forestiers capables de vraiment contrôler les parcs. En plus, l'appât du gain reste fort, car des fortunes immenses peuvent être accumulées dans le commerce du bois exotique rare, comme le merbao que l'on trouve en Papouasie. Mais surtout, le cœur du problème, c'est la corruption qui gangrène l'État indonésien, constate Patrice Levang.
On arrive à passer en douce quelques grammes de hashish au fond d'un pantalon, sortir discrètement 10 000 mètres cubes de merbao, c'est quand même plus délicat. Donc forcément tout le monde est au courant, et quand tout le monde est au courant, tout le monde touche. Et c'est pour ça que je dis, le seul moyen, c'est une volonté politique majeure. Ces gros exploitants sont très faciles à arrêter. Discuter avec le secrétaire général du ministère des Forêts, lui, il a trouvé la solution. Il dit, bon, on les connaît, on en arrête 7, on les prend sur la place du marché et puis on arrêtera le problème immédiatement. C'est pas faux. Mais...
Cette volonté politique commence à se faire sentir et la situation s'améliore, mais très lentement. Et si les scies se sont calmées près du village de Ahmad, Elles ne se sont toujours pas tues. D'ailleurs, le temps presse, car si cela continue à cette vitesse, la totalité des forêts primaires sur cette île grande comme la France pourrait avoir disparu d'ici 15 ans.
Saudara warga tani dan nelayan, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya, bekerja sama dengan Yayasan BOS.
C'est pour sensibiliser les habitants de Bornéo à la cause des forêts qu'une ONG comme le BOS diffuse régulièrement des émissions de radio comme celle-ci, Peduli Orang-Outang, prenez soin des orang-outans. Car les grands singes roux qui habitent les forêts sont les premières victimes de la déforestation rapide. Nous voici au centre de réhabilitation pour orang-outans de l'ONG BOS. Lone Nielsen, une blonde danoise en charge du projet, me mène à l'arrière du camp, dans la petite forêt où se trouvent les bébés orang-outans. Une trentaine d'adorables petits singes jouent ou boivent le biberon sur les genoux de leurs nounous, de jeunes femmes employées par le camp. Ce sont les plus jeunes parmi les 630 pensionnaires qui attendent d'être prêts à être relâchés dans la nature.
Tous les animaux que vous voyez ici viennent d'endroits où la forêt a été ouverte pour laisser la place à des plantations de palmiers à huile. Lorsque les orang-outans qui habitaient dans ces forêts s'aventurent sur les plantations à la recherche de nourriture, ils deviennent des proies faciles, surtout les femelles. Et lorsque les travailleurs les repèrent, ils les tuent car ils savent qu'ils peuvent revendre les bébés comme animaux de compagnie. Autrefois, il n'y avait qu'un seul danger pour les orang-outans, la chasse. Aujourd'hui, la principale menace qui pèse sur l'espèce, c'est la destruction des forêts. Ils perdent leur habitat plus vite que jamais, et ça, c'est principalement à cause de l'invasion des palmiers à huile.
En avril dernier, Lone a pu relâcher dans la nature 36 animaux. Mais cela devient de plus en plus dur de trouver une forêt qui puisse accueillir ses pensionnaires, une forêt qui soit à l'abri des appétits des investisseurs de l'agrobusiness. Lorsque l'on quitte les terres arides du projet Mega Rice, la monotonie des herbes folles est remplacée par celle des palmiers à huile. L'Indonésie et la Malaisie, qui se partagent l'île de Bornéo, produisent à elles deux 90% de l'huile de palme dans le monde, celle que vous trouvez dans votre margarine, votre rouge à lèvres ou bientôt dans votre moteur. Car l'huile de palme profite du boom actuel des biocarburants. Comme on recherche de plus en plus des alternatives au pétrole, des plantes comme le palmier deviennent d'intéressantes options pour produire de l'énergie verte. Encore que pour Stephen Brent, un biologiste de l'ONG Orang-Outan Fondation Internationale, il n'y a rien de vert dans la culture du palmier à huile.
It's an utter landscape change.
C'est une transformation radicale du paysage. Vous prenez une forêt tropicale, riche en biodiversité, oiseaux, insectes, mammifères, petits ou grands, et vous vous retrouvez avec une monoculture, avec simplement une espèce végétale. La plus petite plantation de palmiers à huile fait 10 000 hectares. Ces choses-là sont vastes. Si vous les survolez, vous ne voyez rien d'autre, jusqu'à l'horizon, que des palmiers. Des millions d'hectares sont en train d'être reconvertis.
Le gouvernement indonésien assure que les plantations ne peuvent s'implanter que sur des zones déjà dégradées, pas sur la forêt primaire. Mais sur le terrain, ce n'est pas toujours le cas. L'une des raisons, ce sont les statistiques nationales qui sont souvent inadéquates. Il arrive qu'à Jakarta, qui attribue les concessions pour les planteurs, une zone soit considérée comme zone dégradée, alors que c'est en fait encore une zone de forêt. C'est notamment pour cela qu'un parc national comme celui de Tanjung Puting a été déjà crignoté au nord par de nouvelles plantations. Mais également, c'est bien plus intéressant pour les investisseurs de se faire octroyer un pan de forêt plutôt qu'un hectare de broussailles, explique Alou Dorong de l'ONG Wetlands International.
Je ne veux pas leur jeter la pierre, mais vous savez, si vous établissez votre plantation à la place de la forêt, c'est bien plus lucratif. Le bois que vous devez couper pour préparer la surface de plantation, vous pouvez le vendre. Du coup, vous amortissez très vite l'investissement nécessaire pour établir ces plantations.
Cela fait plusieurs années que les cours de l'huile de palme battent record après record. Donc le gouvernement indonésien a d'ores et déjà annoncé son intention de dédier 5 millions d'hectares supplémentaires pour la culture des biocarburants à travers l'archipel, principalement celle de l'huile de palme. Les amoureux des orang-outans, les biologistes, les écologistes sont furieux. Mais pour les habitants de Bornéo, le tableau n'est pas si noir. Prenons Alo, la trentaine, une vendeuse de légumes dans un village noyé au milieu des plantations d'huile de palme. Grâce aux centaines d'emplois créés par ces business gourmands en main-d'œuvre, les gens de la région ont maintenant de meilleurs salaires pour lui acheter ses légumes. Elle parvient donc à en vendre trois fois plus qu'auparavant et a donc pu améliorer son style de vie au quotidien.
On est content maintenant qu'il y a les plantations. Grâce à cela, j'ai pu m'acheter deux mobilettes. Celle-là, j'aurais fini de la payer dans trois mois et je suis aussi en train de me faire construire une maison.
Autrefois, le village d'Alou était abrité par la forêt. Elle et ses voisins en tiraient la plupart de leurs revenus, grâce à la cueillette, à la chasse, à l'utilisation de son bois pour la construction des maisons. Bref, une vie en harmonie avec la nature, le genre de vie que l'on idéalise lorsqu'on est condamné au métro, boulot, dodo des villes occidentales. Tranquille, sain et harmonieux, n'est-ce pas ?
N'importe quoi, on en avait marre de la forêt.
Il faut dire qu'aujourd'hui au village, il y a une route qui mène à la petite ville la plus proche. Tout le monde a un emploi avec un salaire fixe à la fin du mois. Et dans quelques mois, le village comptera même son premier diplômé d'université, une jeune fille qui étudie dans la capitale provinciale pour devenir institutrice. Les plantations, c'est la voie du progrès, constate Ramé, un vieil homme à la bouche mangée par les rides.
Dans tout, il y a un peu de bien et un peu de mal. Pour les plantations de palmiers à huile, ce qu'il y a de bien, c'est que les gens ici peuvent avoir du travail, un salaire. Et ce qu'il y a de mal, eh ben rien en fait.
Pourtant, si on lui demande de creuser dans ses souvenirs, ses yeux se mouillent de larmes et sa voix se met à trembler.
Évidemment, la forêt nous manque. Ça nous manque. C'est pas possible de ne pas la regretter. La vie était belle quand on avait encore notre forêt. Ce qui me manque, eh bien, aller dans la forêt, chercher du bois pour faire le feu, du bois pour pouvoir construire nos maisons, y aller pour chasser aussi. Parfois, il y a du gibier, et parfois, il n'y en a pas.
Mais nostalgie ne veut pas forcément dire regret. Et ici, couper les arbres, ce n'est pas forcément un choix. Patrice Levent.
Je veux dire, il n'y a pas de secret. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qui, aujourd'hui, est le plus rentable. Détruire la forêt, la convertir en plantation de palmiers à huile, c'est affreux, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est ce qui est rentable. Et si on était à leur place, je pense qu'on ferait exactement la même chose. Un chef de famille qui habite à Malina, au Kalimantan Est, là où on travaillait, s'il a besoin d'argent pour deux choses, pour l'éducation de ses enfants et pour payer des frais de santé. Seule manière d'obtenir de l'argent localement, c'est d'aller couper du bois dans la forêt. Et s'il veut faire de l'agriculture, eh bien, il a besoin de terre. Et où trouver de la terre qui n'est pas encore en propriété, eh bien, on va ouvrir un nouveau pan de forêt.
Pourtant, à l'heure où le monde s'inquiète des effets du réchauffement de la planète, la pression monte de la part des pays riches surtout pour stopper cette déforestation. L'Indonésie, championne du monde en la matière, est bien sûr sur le banc des accusés. Mais au ministère des Forêts, on récuse cette position.
On obéit au principe des 3P. Nos forêts doivent profiter à la planète, mais aussi pour nos profits et pour notre peuple. Cela veut dire que l'on doit bien exploiter nos forêts. En fait, nous sommes des victimes. Vous, vous avez coupé vos forêts il y a des siècles, n'est-ce pas ? Et en plus, ce sont vos industries qui produisent les plus grosses émissions de carbone. Donc, pourquoi est-ce que ce serait nous, et nous seuls, qui devrions réduire les émissions au niveau global ? On doit travailler ensemble, on vit tous sur la même planète.
Environnement ou économie, le choix est difficile, si ce n'est impossible, l'harmonie nécessaire. Même pour quelqu'un comme Yarden, le scientifique, qui est si remonté contre la folie d'un projet comme celui de Megarice, ce n'est pas possible d'arrêter tout net l'exploitation des forêts elles-mêmes, ou bien de leur sol, ou de leur sous-sol, qui est riche en or ou en charbon.
On a besoin de ce genre d'investissement, on en a vraiment besoin. Mais quand même, notre or et nos forêts ont déjà disparu, mais nos routes ici sont toujours mauvaises. Ce que nous voudrions, c'est qu'une fois qu'on a coupé la forêt, on nous laisse au moins de bonnes routes. C'est cela qu'on veut. Le développement pour le peuple, et non le peuple pour le développement.
Séjour de vacances dans le village de bord de rivière, au nord du parc national de Tanjung Puting. Dans cette partie de Bornéo, la forêt a disparu et ne reviendra probablement jamais, remplacée par des champs de palmiers, de manioc ou de caoutchouc. Les enfants qui jouent dans la cour de la mosquée ne verront jamais autre chose que le fantôme de la forêt qui a nourri et abrité leurs parents. Mais ils ne la regretteront sans doute pas plus que les petits Européens qui n'ont jamais connu les forêts de leurs ancêtres, si tant est qu'ils ont la chance de profiter des fruits de la destruction frénétique des arbres de Bornéo. Grand reportage, Solène Honorine, réalisation Marc Minatel.